What's your color? I wanna know. Oh, oh, oh. What's your color? I wanna know. Oh, oh, oh. What's your color? I wanna know. Oh, oh, oh. I wanna know. I wanna know. I wanna know. I could be red. Or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like.
Bonjour et bienvenue sur Radio Campus Lorraine, 106.1 FM à Metz, 99.6 FM à Nancy et sur le site radiocampuslorraine.com. Je suis Enid et je vous présente Rainbow, votre émission LGBT+, où nous parlons amour, partage et sexualité. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques sujets difficiles, le consentement, l'acceptation. Mais avant tout, dans ma recherche d'interviews et de témoignages de personnes ace et arrow, j'ai rencontré Léa.
Donc bonjour, donc je m'appelle Léa et je vais parler un peu de l'expérience que j'ai de la découverte de mon asexualité et de l'impact que ça a eu sur mes relations. Parce que j'ai eu deux relations avec des aides, donc des gens qui ne sont pas asexuels. Alors, en fait, j'ai découvert un peu mon asexualité, on va dire tardivement. J'ai toujours su qu'il y avait un truc qui était différent, en fait, que je réagissais pas comme les gens autour de moi par rapport à la question de la sexualité et du sexe en général, surtout à l'adolescence. Je pense que c'est vraiment le moment où je me suis rendu compte qu'il y avait un truc chez moi qui ne fonctionnait pas comme chez les autres, parce que j'étais entourée de gens de 16-17 ans qui commençaient à beaucoup être curieux de ça, qui commençaient à parler beaucoup de ça, avec des copines qui se posaient beaucoup de questions et qui commençaient à dire « Oh là là, avec mon copain... on a des problèmes, ça se passe pas bien, ou alors j'ai peur de le faire, je veux pas le faire, je veux le faire, etc. Et moi, ça rentrait jamais en ligne de compte, en fait. J'ai toujours été un peu un cœur d'artichaut, assez romantique, à enchaîner un peu les crushs et les coups de cœur. Mais je me suis assez vite rendu compte qu'en fait, quand j'imaginais une relation avec un homme, à l'époque avec un garçon, le sexe n'entrait jamais en ligne de compte. En fait, moi, je m'imaginais aller au ciné, se tenir la main et se dire des mots gentils, mais jamais avoir des rapports sexuels. Parce que, en fait, je me suis très vite rendu compte que ça ne me paraissait pas important, en fait. Ça me paraissait pas avoir un grand intérêt, d'ailleurs, que c'était plus un vecteur de problème qu'autre chose. Et donc, je me suis au début posé certaines questions. Je me suis notamment demandé si finalement, j'étais pas plus intéressée par les femmes que par les hommes. Et puis, je me suis assez vite rendu compte que non. Je n'avais pas d'attirance romantique pour les femmes. J'avais une attirance romantique pour les hommes, mais voilà, je n'étais pas curieuse. Donc après, j'ai mis ça sur le compte du fait que j'étais peut-être juste trop jeune, que ça viendrait plus tard. Et donc, j'ai laissé ça de côté jusqu'à ce que j'ai ma première relation de couple à 17 ans. Donc, j'ai rencontré mon premier copain. Et on s'est mis en couple. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était pas une question que j'étais pas curieuse. C'est une question que... en fait, j'avais beau être très amoureuse de mon copain, j'avais jamais envie de mon copain. Et au début de la relation, j'ai mis, et il a mis aussi ça sur le compte, que c'était ma première relation, que j'avais peut-être des appréhensions, que c'était le temps que ça se mette en place, etc. etc. Sauf que ça venait pas. Les mois passés, c'est jamais venu. Et ça a commencé à poser problème dans notre couple. Parce que lui ne concevait pas une relation sans sexe, en fait. Comme beaucoup de monde, il considérait que le sexe était pas le pilier de la relation, mais presque, et que avoir un rapport sexuel, c'était le moyen d'exprimer l'amour dans un couple. D'ailleurs, on appelle ça faire l'amour, ce qui est quand même, à mon sens, très acephobe et arophobe, et très, voilà, très centré sur le sexe. Et donc, pour lui, il ne comprenait pas, en fait, que moi, même si on avait des rapports et que j'y prenais du plaisir, je n'initiais jamais ça. Je disais souvent non. Et en fait, il comprenait pas que j'ai pas cette cette capacité, ce réflexe, cette envie. Voilà, il a donné plusieurs mots à ça. Et donc, il s'est mis à remettre en question notre relation, à me dire que peut-être que c'est parce que je le trouvais pas attirant, que je le trouvais moche, que je l'aimais pas. Qu'en fait j'avais pas vraiment envie d'être avec lui, parce que en fait bah voilà, si je l'aimais, c'était impliqué que je devais avoir envie de lui, et donc du coup c'est qu'il y avait un problème, quoi. Et en fait le problème c'était moi, dans sa tête, et étant donné que c'était ma première relation et que moi j'y connaissais rien, il m'a assez vite persuadée que le problème c'était moi. Donc assez vite, je devais avoir donc j'avais 18-19 ans. Hein. En plus, moi j'avais grandi et on m'avait toujours appris que effectivement, voilà, on tombait amoureux, on se mettait en couple et on avait des relations sexuelles. C'était comme ça. Il n'y avait pas de, il n'y avait pas d'autre voie, et que ceux qui n'aimaient pas le sexe, c'était ceux qui avaient vécu un traumatisme dans l'enfance ou dans l'adolescence, et donc voilà. Et moi, je savais que j'étais pas traumatisée, mais donc du coup, j'avais un problème. Et j'étais persuadée pendant des années, j'ai été persuadée que j'avais un problème, que j'étais malade, que j'avais un truc cassé, qu'il fallait que je le répare. Lui, arrêtait pas de me dire que il fallait que je trouve le déclic, comme s'il y avait un espèce de truc magique à un moment donné. Que j'allais essayer et qui allait me faire aimer le sexe. Et donc, ça a vite tourné en culpabilisation de sa part et en culpabilité intériorisée pour moi. Parce que j'avais beau essayer de lui expliquer ce que je ressentais, il le comprenait. Voilà, pour lui, il fallait que je répare un truc. Et donc, ça a fini, au bout d'un temps, à être tellement à arriver à un point tel que en fait on se disputait énormément là-dessus, et que chacun de à chaque fois que je le repoussais, et ben on était parti sur une dispute, quoi, qui se terminait souvent en moi qui pleurait et qui culpabilisait sur le sujet, à tel point que en fait j'ai fini par intérioriser ça, et j'ai fini par me forcer. Et donc ça va pas être très marrant ce que je vais dire, c'est pas très marrant ce que je raconte, mais ça se termine bien, mais voilà, je vais dire un truc qui va pas être marrant du tout. J'ai vite compris que grosso modo au-delà de 2 semaines il commençait à être frustré et à me culpabiliser, donc je comptais littéralement les jours, et au bout de 2 semaines je répondais favorablement à ses avances, comme ça j'avais la paix, voilà. Ça a duré plusieurs mois, parce qu'au-delà de ça j'étais dans une relation toxique, c'était quelqu'un de toxique, on avait une relation toxique, de laquelle j'arrivais pas à m'extirper, pour d'autres raisons qui entouraient le sexe, mais voilà, aussi par ça. Donc pendant plusieurs mois, on a fonctionné comme ça, ce qui n'était pas très sain pour moi, ce qui a aggravé certains symptômes physiques, chroniques que j'avais par ailleurs. Ce qui m'a que je suis encore en train d'essayer de gérer, hein, d'ailleurs, mais voilà, notamment des insomnies, etc. Jusqu'à ce que, à mes 23 ans, donc voilà, ça faisait 4 ans et demi que j'étais avec lui, ça faisait à peu près 3 ans que ça se passait comme ça, jusqu'à ce que une copine tout d'un coup me balance le mot asexualité, en fait. Je savais que c'était quelqu'un d'ouvert, c'était quelqu'un avec qui je parlais beaucoup, et un jour, je lui ai parlé de ça, je lui ai dit, écoute, ça se passe pas bien du tout, il se passe ça, ça, ça. Et là, elle m'a dit, mais t'as déjà entendu parler de la sexualité? Et donc là, je suis allée sur Internet, tout simplement. J'ai tapé asexualité. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas toute seule. Que ce que je vivais était en fait similaire à ce que vivait un tas de gens. Et que c'était pas un truc cassé. C'était la première fois de ma vie, en fait, qu'on me disait que j'étais pas cassée. Et qu'il y avait d'autres gens comme moi et que c'était OK, en fait. Et d'un coup, ça a tout changé. Parce que pour la première fois de ma vie, je comprenais qu'en fait, c'était pas moi qui avais un problème. Et que ce que je vivais avec mon copain de l'époque était pas normal. Et que j'avais pas à le faire. Et que j'avais pas à le vivre. Et donc, j'ai mis encore quelques mois à quitter ce mec. Mais j'ai fait mon premier coming out, on peut dire. Pas en donnant le mot, mais en expliquant clairement ce qui se passait. Ce qui m'a valu pas mal de reproches et une petite séance de culpabilisation en plus. Et donc j'ai fini par le quitter. Et j'ai rencontré mon copain actuel, donc avec qui je suis depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Qui pour le coup, en fait, quand je me suis mise avec, je me suis dit bon bah de toute façon c'est chouette, mais d'ici quelques semaines, quand j'aurai le courage de lui faire mon coming out, ce sera terminé. Et pas du tout. Je suis tombée sur quelqu'un qui a compris, qui a cherché à comprendre surtout, qui a cherché à s'informer, qui m'a posé des questions. Qui m'a écoutée et qui, je sais pas s'il comprend complètement, mais il accepte et il respecte. Et je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut demander finalement. Et donc voilà, ça va faire 3 ans que je suis en couple avec quelqu'un qui m'a jamais fait culpabiliser, m'a jamais mis de pression à ce niveau-là. Avec qui j'ai une communication très ouverte, c'est-à-dire que voilà, j'ai des périodes pendant lesquelles je supporte pas qu'on me touche et que je supportais pas qu'on me fasse des avances. Je supporte pas qu'il exprime ses envies, même si je comprends que voilà, c'est presque inconscient chez lui, mais voilà, il y a des périodes où je supporte pas. Je lui dis et il s'arrête, il fait l'effort. Donc on a une communication très ouverte et saine finalement, ce que je pensais pas être possible, mais en fait si. C'est la seule personne à qui j'ai fait mon coming out, parce que je trouve ça un peu compliqué de parler de quelque chose comme ça à ma famille et à mes amis pour l'instant. C'est en travail encore. Mais c'est surtout que après avoir vécu une relation qui était si compliquée et qui m'a vraiment donné des mauvais réflexes, compter les jours du calendrier pendant lesquels on a le droit de pas avoir un rapport, c'est quelque chose qui finit par rester en fait. Et j'ai mis des mois à déconstruire tout ça, j'ai mis des mois à déconstruire la culpabilité intériorisée, j'ai mis des mois à dire le mot, et maintenant je le dis sans problème. Tout ça parce qu'en fait, quelqu'un un jour m'a dit « mais en fait, ça existe, la sexualité ». Et il a fallu que j'attende de trouver la bonne personne. Qui me disent mais c'est normal ce que tu vis, regarde ça, ça existe. Il a fallu aussi que je trouve la bonne personne qui dise bah écoute, ok, tu fonctionnes comme ça, c'est différent de comment je fonctionne, mais on va trouver un moyen. Et où je me retrouve dans une relation où le sexe n'est pas le centre du monde, n'est pas le centre de notre relation, et c'est pas ça qui le fait fonctionner finalement. Donc, mon histoire qui a démarré de façon un peu pas drôle, qui se termine de façon beaucoup plus saine. Et je pense que c'est important de le savoir. je pense que c'est important de savoir que c'est pas parce qu'on est ace que on est condamné à être seul ou dans une relation malsaine. On a le droit de vouloir une relation saine, même avec quelqu'un qui n'est pas asexuel, et ça existe. Mais il faut en parler, en fait, parce que mon copain actuel connaissait pas non plus la sexualité, donc si je lui en avais pas parlé, il l'aurait peut-être pas trouvé tout seul non plus. Et je pense que c'est important aussi de savoir que c'est normal de vouloir vivre son asexualité et de pas, c'est pas normal de se forcer, en fait, c'est pas normal de parce qu'on est exactement de se culpabiliser, parce qu'on, en fait, on est souvent vu comme oh, le pauvre, il sort avec une asexuelle ou un asexuel, ou voilà, quel que soit le couple dans lequel vous êtes. Et donc, on est souvent vu comme le problème, en fait, finalement, parce qu'on est asexuel, c'est nous qui causons le problème. Alors qu'on n'est pas le problème, en fait. Mon asexualité n'est pas un... C'est pas un truc avec lequel mon... les gens autour de moi doivent jongler. C'est un fait. Et on a le droit de vivre notre asexualité, on a le droit de respecter notre asexualité et de faire respecter notre asexualité parce que en fait finalement personne mérite qu'on sacrifie une part de notre identité pour eux et personne mérite qu'on ait des comportements qui sont destructeurs pour nous-mêmes et on peut trouver, ça existe ça existe et c'est bien de trouver quelqu'un qui respecte notre asexualité et avec qui on peut avoir une relation saine et heureuse. Voilà, c'était mon petit message d'espoir, je crois.
Tu veux ou tu veux pas ? Tu veux, c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas. Toi, tu dis noir et après, tu dis blanc. C'est noir, c'est noir. Oui, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. Tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas.
Vous êtes de retour sur Radio Campus Lorraine, 106.1 FM à Metz, 99.6 FM à Nancy. Nous venons d'écouter Brigitte Bardot, Tu veux ou tu veux pas. Et juste avant, nous avons eu le témoignage de Léa. Cela m'a donné envie de vous parler d'un sujet dont on entend beaucoup parler en ce moment pour une bonne raison. Le consentement. C'est une chose très importante et très simple. Lorsqu'on est avec quelqu'un, intimement ou non, l'une des choses les plus importantes est de poser des questions. Est-ce que tu veux? Est-ce que je peux? Est-ce que tu as envie? Comment ça va? Que ce soit avec des mots ou un regard, il faut demander le consentement de son partenaire. Et les réponses sont encore plus importantes. Oui, non, peut-être, je ne sais pas. Il faut en tenir compte. Et changer d'avis est tout à fait valable. Sans tout ça, il n'y a plus de consentement et c'est un viol. Et c'est puni par la loi. Que ce soit la première fois, la première rencontre, que ce soit quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, que vous fréquentez depuis longtemps, que vous vous aimez sincèrement, qu'il y ait eu du désir, mais pas sur l'instant, qu'il y ait eu de l'alcool et que vous l'ayez chauffé, que vous soyez endormi, que vous portiez une tenue dite provocatrice, que ce soit votre idée, qu'on vous menace, qu'on négocie, qu'on vous culpabilise, que vous soyez un homme, une femme, à genre, autre, quel que soit votre genre ou le sien, quelle que soit votre sexualité ou la sienne, qu'importe tout cela, s'il n'y a pas de consentement, c'est un viol. Il faut porter plainte. Le fait de ne pas avoir envie de relations sexuelles n'est pas toujours le fait de l'asexualité ou de l'aromantisme. C'est souvent le fait d'un désir personnel et il faut le respecter. Et comme nous sommes sur les sujets difficiles à parler et toujours d'actualité pour cette rentrée scolaire, laissez-moi vous parler d'acceptation.
Dans la vie, il y a deux types de personnes. Ceux qui acceptent et ceux qui refusent. Ou en un terme plus compréhensible, pour les mots qui suivent, les personnes qui t'acceptent et les personnes qui te rejettent. Ce monde actuel est maintenant envahi de ce que l'on appelle les critiques. Or, le fait que certaines sont faites pour faire réfléchir, ou pour certains, pour rigoler, d'autres sont comme des armes blanches. Les critiques sont lancées sur des points faibles d'une personne qui sont très spécifiques, qui le rend différent aux autres. Par exemple, il y a des critiques sur le poids, la taille, la façon de penser, la façon d'être, la façon d'aimer, la façon d'agir, et j'en passe. Chaque critique lancée provient d'un jugement que l'on appelle préjugé. Je m'autocite, chose qu'énormément de monde fait. Une simple personne banale peut autant être diabolisée, lui n'ayant rien demandé, juste la tranquillité, alors que d'autres, sur eux, vont créer des rumeurs et des insultes, essayant de critiquer le simple, même le plus simple trait de caractère pour juger, se moquer. Fin de citation. Pourquoi ? Car l'homme humain préjuge tout le temps une personne inconnue pour se faire une idée, mais cette idée, même après avoir connu cette personne, après lui avoir parlé, elle restera toujours ancrée en eux. Un regard, une parole, un geste, une opinion, tout ceci caractérise le préjugé. Bien sûr, tout le monde ne pense pas pareil, mais personnifions le problème. Comme dit au-dessus, les préjugés sont à la base du jugement, ce qui constitue le corps de l'arme blanche. Ensuite, le jugement, ou critique, caractérise le chargeur de l'arme, et la vérité, les balles contenues dans le chargeur. Cette personnification est un peu forte, mais voilà pourquoi. Les critiques additionnées aux préjugés et à la vérité constituent une arme à balles réelles pour la conscience, ou à balles à blanc, car tout dépendra de ce qui se cache derrière la critique. La victime, la personne critiquée, peut prendre bien ou mal certaines choses, alors que, pour vous, ça peut être un total inverse. Une fois la balle tirée, il y a deux cas de figure. Soit la balle est à blanc, et la victime en sort inchangée, ou bien la balle est réelle, et la victime change au quart de tour. Elle prend cette critique en plein cœur, elle s'isole, se complexe et se cache dans un silence. Alors que le tireur, lui, sans penser à ce qui pourrait se passer, tire et laisse la chose telle qu'elle. Donc, pour clôturer ceci, la critique est une chose omniprésente dans ce monde. Certains les prennent bien, d'autres mal. Mais chose que personne ne fait, c'est de penser à ce qu'il peut se passer derrière, entre réaction, agissement et propos.
Si s'avouer à soi-même ce que nous sommes est compliqué, l'avouer à ses proches, sa famille et ses amis l'est encore plus. Parce qu'on a peur du degré d'acceptation qu'on va recevoir. Et pour beaucoup, cet avis est le plus important. Plus important que les remarques et insultes d'étrangers. L'avis de ses proches peut réellement faire mal. Que ce qu'on aime tellement, en qui on a tellement confiance, ne nous accepte pas. Mais le plus dur, c'est quand sa famille n'accepte pas et rejette, renie son enfant. Quand un enfant se trouve dans un environnement toxique comme ça, il a besoin d'aide. De ses amis ou d'un organisme. Juste de l'aide. Et c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la semaine prochaine. Je vous laisse avec Kinvé, comme les autres, sur Radio Campus Lorraine.
Toi, le père qui m'a toujours aimé, dis-moi pourquoi ça a changé, alors qu'au fond, je suis le même. Oh oui, toi, le père qui m'a toujours aidé, dis-moi ce qui peut te déranger dans le fait que ce soit les hommes que j'aime. Après tout, ce n'est pas comme si j'avais choisi. Et puis, ce n'est pas une maladie. Ça ne fait pas de moi une autre personne. M'as-tu mis au monde seulement pour que je te copie? Tu sais, l'enfant parfait n'est qu'utopie. Je pensais que tu m'aimais, pourtant tu m'abandonnes. Dis-moi, est-ce vraiment de ma faute si je ne suis pas comme les autres? Enfin, du moins pour toi. Le père que j'ai tant exemplé, dis-moi pourquoi suis-je exempté de connaître le bonheur à ma manière. Oh oui, toi, le père que j'ai toujours écouté, dis-moi pourquoi suis-je rejeté seulement parce que de moi tu n'es plus fier. Je ne te demande pas de m'imaginer au lit, seulement de me laisser vivre ma vie. Je ne suis pas devenu différent, non. Ce n'est pas à cause de ton éducation si je suis attiré par les garçons, mais je suis resterai ton enfant. Vraiment de ma faute si je ne suis pas comme les autres. Enfin, du moins pour toi. Oui, tu crois que je serais plus heureux si j'étais comme eux. M'aimerais-tu que pour ça? Est-ce par honte ou par peur du regard des autres, que tu renies le lien qui est le nôtre? Certes, je ne ferai pas de toi un grand-père, mais tu ne fais déjà pas ton rôle de père. Aurais-tu préféré que je fasse semblant, pour que tu me vois avec une femme en blanc? J'espère qu'un jour tout ça tu regretteras, mais sache que je t'aimerai toujours, papa.